Chahut
Média.
Comment l'asile en Suisse a évolué depuis la Seconde Guerre à aujourd'hui ? Et quelles ont été les grandes étapes de la politique d'asile de la Confédération ? Imaginez en complément à la série podcast « À la frontière », Chahut Média vous propose en collaboration avec asile.ch cette mini-série en forme d'état des lieux. En 5 épisodes, on examine la façon dont la Suisse accueille les personnes exilées sur son territoire aujourd'hui. Ici, on est direct, court, pas de chichi, une visio, 3 ou 4 questions et des réponses solides.
À la frontière aujourd'hui, épisode 2, son titre, l'asile en Suisse, un accueil à deux vitesses. Au bout du fil, Sophie Malka, coordinatrice et rédactrice en chef d'asile.ch.
Sophie, comment l'asile en Suisse a évolué depuis la Seconde Guerre aujourd'hui et quelles seraient les grandes étapes de l'évolution de la politique d'asile ?
Alors, ce que je peux dire, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la Suisse a été plutôt ouverte et généreuse avec de facto toutes les personnes qui fuyaient des régimes communistes pouvaient être accueillies en Suisse. La Hongrie en 56, les Tibétains en 61. Les Tchécoslovaques en 68, les réfugiés du Laos, Cambodge, Vietnam, de Pologne, il y avait une grande ouverture. C'était plus compliqué pour les personnes qui fuyaient d'autres situations et des régimes qui n'étaient pas communistes avec lesquels la Suisse avait des relations. Je pense notamment après la crise de Suez, des juifs égyptiens qui fuyaient l'Égypte ont été accueillis avec parcimonie selon les autorités politiques suisses. Et puis, on pense aussi aux Chiliens, à partir de lorsque le régime de Salvador Allende a été renversé, où la Suisse a très parcimonieusement voulu accueillir un contingent de 200 personnes. Et là, il y a eu des mouvements dans la population suisse qui ont forcé un peu la Suisse à accueillir un peu plus de monde, en disant « on va les accueillir chez nous, les actions places gratuites ». Mais c'est aussi à ce moment-là que la Suisse a introduit un visa pour les Chiliens visant à empêcher l'arrivée de Chiliens sur le territoire suisse. On revient sur la question de l'accès au territoire et la politique d'asile, c'est aussi une question politique à travers la politique des visas. Et puis, dans les années 73, première intervention parlementaire pour mettre en place une loi sur l'asile qui n'existait pas jusqu'ici. Et cette loi sur l'asile est entrée en vigueur en 1981. Et à partir de ce moment-là, donc c'était une loi qui était plutôt généreuse, simple, qui visait vraiment à définir quels sont les critères d'obtention du statut de réfugié. Et puis, elle a commencé à être révisée, cette loi, dès les années 83, 2 ans plus tard, première révision de la loi sur l'asile. Et ça a marqué le début d'une succession de révisions et de durcissements de la loi sur l'asile. Ces différentes restrictions visaient d'une part à réduire l'accès au statut de réfugié en agissant sur la procédure en fait de détermination du statut de réfugié. L'idée c'était de faire baisser le nombre de demandes d'asile en Suisse et puis à dégrader les conditions de vie des personnes. Et en 1983, par exemple, c'était une interdiction de travail qui a été menée à des fins de dissuasion. Et de plus en plus de mesures ont été adoptées à chaque fois avec ces deux objectifs. En 86, il y a eu une première grande révision avec une accélération des procédures, la mise en place de centres fédéraux qui visent à isoler les réfugiés ou les demandeurs d'asile de la population, criminalisation avec la prise d'empreintes digitales pour les personnes issues de l'asile, puis une aide sociale réduite pour les personnes qui relevaient du domaine de l'asile, les demandeurs d'asile, etc. Ces mesures ont été politiquement accompagnées d'un discours autour des abus et de la dissuasion. On veut faire baisser le nombre de demandes d'asile par tous les moyens en Suisse. Et ça se traduit aussi, pour reprendre les différentes étapes, il y a une première révision en 1998 avec des décisions de non-entrée en matière, une multiplication de décisions pour lesquelles on ne rentre pas, on n'examine pas la demande d'asile, on la rejette sans examen des motifs de fuite. En 2003, il y a eu, dans le sens d'un durcissement des conditions d'existence, l'introduction de ce qu'on appelle l'aide d'urgence, c'est-à-dire qu'on supprime l'aide sociale des personnes à qui on estime qu'il n'y a pas de motif de fuite. En 2008 aussi, l'entrée en vigueur du système de Dublin, qui permet à la Suisse d'expulser des personnes sans examiner leur demande de protection vers d'autres pays vers lesquels ces personnes sont entrées. Et la Suisse va appliquer ces accords de Dublin de manière automatique, sans considérer la vulnérabilité des personnes lorsqu'elle les transfère vers d'autres États Dublin. Et puis, dernière étape, c'était en 2013-2014, entrée en vigueur en partie en 2019 de la grande restructuration de l'asile avec la mise en place de centres fédéraux où les personnes sont retenues, entre guillemets, pendant jusqu'à 140 jours, le temps de la procédure d'asile, donc avec une procédure vraiment dans les centres fédéraux. On voit une fédéralisation de la procédure d'asile et une volonté de la Confédération d'enlever de plus en plus de marge de manœuvre au canton dans la gestion de l'asile.
Sophie, avec l'accueil des réfugiés d'Ukraine en Suisse, assiste-t-on à un accueil à deux vitesses ?
Je pense que la guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie a réveillé énormément de vieux démons et de peur de la part de la population européenne. D'abord, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de guerre en Europe. On peut dire que le fait que la Russie de Poutine fasse référence à l'URSS a aussi réveillé certaines peurs. Et c'est vrai que du coup, on a connu une ouverture dans les discours et dans la politique d'accueil des réfugiés d'Ukraine, une ouverture qu'on n'avait jamais vue en fait. Qu'on avait vu peut-être, on peut faire le parallèle avec les Hongrois qui fuyaient les régimes communistes, etc. précédemment. Donc là, on peut faire le parallèle. Mais au niveau des conditions dans lesquelles la Suisse a accordé un accueil aux réfugiés d'Ukraine ont été extraordinaires dans le sens où toutes les mesures qui étaient mises pour les autres réfugiés des guerres ont été en fait mises en suspens pour octroyer des conditions d'accueil et d'intégration finalement meilleures pour les réfugiés d'Ukraine. On peut dire qu'il y a eu un accueil extraordinaire, on peut dire aussi que le discours a été extraordinairement ouvert avec une volonté d'accueil, une volonté de tous les acteurs politiques de dire on les accueille, on va y arriver, parce que aussi je pense qu'on a compris aussi que la Russie voulait instrumentaliser aussi la question des personnes migrantes, parce que c'est un sujet politique au niveau de l'Europe qui est extrêmement puissant et qui est polarisant, etc. La Russie voulait aussi déstabiliser l'Europe à travers la question des réfugiés. Et la réponse, en tout cas, c'est mon avis, la réponse a aussi été extraordinaire dans ce sens-là. Maintenant, au niveau des conditions qui ont été octroyées aux Ukrainiens, c'est clair qu'il y a eu des conditions meilleures que pour d'autres réfugiés, tels que les Afghans, tels que les Syriens, qui, je le rappelle, si on reprend la définition des réfugiés, ne reçoivent pas de statut de réfugié en Suisse, mais reçoivent ce qu'on appelle une admission provisoire, qui est un peu le statut qui est octroyé aux réfugiés de la guerre. Ce statut octroyé aux réfugiés de la guerre, ce n'est pas un statut de réfugié, et la Suisse le présente comme une décision négative. Au niveau administratif et légal, c'est une décision négative et une décision de renvoi. Mais en vertu des principes de non-refoulement, l'exécution de ce renvoi mettrait la Suisse dans une violation du droit international. Donc, on octroie une admission provisoire. Et ce terme d'admission provisoire est très mal compris. Ça a été longtemps présenté par les autorités suisses comme une décision négative pour donner l'impression que la Suisse n'était pas trop généreuse. Donc, on est dans cette notion de discours, de dissuasion, on est restrictif, etc. Et dans ce contexte-là, les droits octroyée aux personnes qui ont une admission provisoire, il y a beaucoup de restrictions dans les droits fondamentaux, comme le droit de voyager hors de Suisse, ce que les Ukrainiens ont obtenu, le droit de faire venir sa famille en Suisse dès qu'on obtient le statut, ce que les Ukrainiens ont reçu, alors qu'en Suisse, il faut attendre 2-3 ans, avoir les conditions de vie suffisantes et financières, etc., avant de pouvoir les obtenir, et le droit, d'autres droits. Ce que je rajouterais, c'est qu'on est déjà maintenant, au bout de 2 ans, on voit déjà les attaques contre le statut des Ukrainiens qui commencent au niveau du Parlement. On est dans cette optique où ça commence. Chaque session parlementaire, tu as une dizaine d'interventions, interpellations visant à restreindre les droits des personnes issues de l'asile, l'accès au territoire, etc., etc. Et prochaine session qui commence la semaine prochaine, il y a une proposition d'enlever le statut S aux personnes qui ne viennent pas des régions d'Ukraine qui sont actuellement en danger. Par exemple, il y a une proposition d'enlever le statut S aux personnes qui ne travaillent pas en Suisse. Ça veut dire possiblement un renvoi, mais on ne sait pas. Et on est exactement toujours dans ce flou, c'est-à-dire que concrètement, les personnes ne vont pas pouvoir être envoyées, donc on va leur donner un statut de moins bonne qualité, donc on va les invisibiliser dans les statistiques aussi de l'asile, et ce qui va nous permettre de dire par ailleurs que la Suisse est restrictive, tout en fait, concrètement, en octroyant un statut.
À la frontière aujourd'hui, une mini-série Chahut Média, conçue en collaboration avec asile.ch. D'autres épisodes vous attendent sur le site de Chahut Média, chahut.ch, ou sur celui d'asile.ch.